ça n'est quasiment ridicule, puis en même temps, c'est tragique. Il y a un tel embouteillage sur l'Everest présentement qu'il y a des alpinistes qui en meurent. On va aller rejoindre François-Guy Thivierge, qui est alpiniste et guide de montagne. Bonjour, Monsieur Guy Thivierge.
Bonjour, M. Drainville.
Alors, racontez-nous ce qui s'est passé.
Ben écoutez, c'est que le mont Everest est depuis une vingtaine d'années beaucoup plus accessible, puis qu'il y a, on dirait qu'il y a une folie vers le goût de monter au sommet du mont Everest, puis d'utiliser la même voie au même moment. Donc, ça crée des embouteillages.
Oui.
Ce qu'il faut que je vous dise, que c'est moi, quand j'ai fait l'Everest en 2008, j'ai été pris dans un embouteillage en redescendant parce qu'il y avait à peu près 60 personnes qui voulaient monter pendant que moi, je voulais redescendre. Fait que c'est tout sur la même corde, puis c'est très étroit. Fait qu'il faut comme enjamber chaque personne, un après l'autre, clipper des mousquetons, puis se déplacer sur une grande corniche de neige, une arête qui a pas de place pour deux pratiquement. Fait que c'est ça qui est embêtant. Puis la particularité actuellement du Mont Everest, c'est qu'il y a des statistiques qui démontrent qu'au mois de mai, il y a deux fenêtres de beau temps. Il y en a une au début mai, puis il y en a une toujours à mi-mai. Les statistiques le montrent. Moi, j'ai fait le sommet du Mont Everest le 22 mai. Fait que hier, c'était mon 11e anniversaire. Puis, il y a toujours un embouteillage dans autour du 20, 22, 23.
Mais là, c'est 24. Parce que là, c'est parce qu'ils sont cordés littéralement les uns derrière les autres. Ils sont comme 200. Ouais. À la queue leu-leu, puis ils veulent tous arriver au sommet pour pouvoir prendre une photo puis dire qu'ils l'ont réussi. Mais dans certains cas, il y en a qui... qui est tombée puis est morte.
C'est sûr que ta santé se dégrade, là, puis ton état d'esprit se dégrade très, très, très rapidement à plus de 8000 mètres. C'est comme si on enfermait un insecte dans un bocal avec hermétiquement. Donc, on se trouve à mourir tranquillement à petit feu à cette altitude-là, même avec l'apport de bonbonnes d'oxygène puis de masques à oxygène. On ressent des symptômes sournois qui nous empêchent d'avoir un bon jugement.
Voilà.
Ça va altérer notre jugement. On est en euphorie. On a le goût d'atteindre le sommet. Puis là, parce qu'il y en a d'autres qui sont là, ça nous encourage à poursuivre. Mais là, notre état d'esprit se diminue. Puis là, ben là, à un moment donné, il y en a qui crèvent là, parce que il faut garder sa, je vous dirais, il faut connaître ses capacités, puis savoir quand redescendre, savoir dire non, je n'ai assez, je peux pas, j'ai tout donné, il faut se garder de l'énergie pour redescendre. Je dis souvent en conférence, le meilleur alpiniste au monde, c'est pas celui qui monte l'Everest, c'est celui qui redescend vivant.
Mais là, c'est parce que franchement, on fait quoi avec ça, là? Ça n'a pas de bon sens, M. Guy Thivierge. C'est en train d'enlever à cet exploit beaucoup, beaucoup de son, je dirais, de son lustre.
Oui, M. Drainville, écoutez, moi, quand j'étais jeune, j'étais fasciné par l'Everest, là. Je me disais, c'est les meilleurs alpinistes au monde qui vont à l'Everest, un peu comme les Jeux olympiques. C'est les meilleurs Canadiens qui sont sélectionnés pour aller aux Jeux olympiques. Mais là, c'est rendu que le Mont Everest, là, tu peux quasiment acheter ton forfait comme un voyage au Club Med. Donc, il y a des gens très fortunés qui se disent, moi, je veux être pris en photo au sommet de l'Everest, puis dire que, comme Reynold Messner ou des alpinistes professionnels, mais ils ont fait l'Everest pour se donner des fleurs ou se donner des... flatter leur ego, comme on dit. Fait qu'il y a beaucoup de monde au Mont Everest qui n'ont pas d'affaires sur cette montagne-là. Ils ont très peu d'expérience. C'est des gens qui n'ont pas d'expérience en haute montagne, qui n'ont pas d'expérience d'escalade. si, mettons, leur Sherpa n'était pas là pour leur montrer comment mettre leurs crampons puis s'encorder, ils seraient même pas capables de le faire. Il y a des gens qui vont au Mont Everest puis qui n'ont jamais mis de crampons de levée.
Ben voyons donc.
Ah oui, écoutez, là, c'est rendu...
Mais c'est rendu une grosse business, là.
C'est rendu une grosse business. Puis le Népal, c'est écoutez, si on calcule qu'il y a 2000, mettons, personnes qui payent 100 000 $ pour faire le Mont Everest, mais ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent au Népalais, qui est un des pays, les 10 pays les plus pauvres au monde. Puis là, en ce moment, avec le Mont Everest puis les sommets qu'il y a dans l'Himalaya, il y a 8 sommets qui sont au Népal. Sur les 14 8000, il y en a d'autres qui sont au Pakistan. Mm-hmm. Mais la majorité des 8000 mètres qui sont les attraits les attraits principaux, c'est l'Everest, le Lhotse, le Makalu, l'Annapurna. C'est toutes des montagnes qui sont dans l'Himalaya, mais qui sont sur le Népal. Puis c'est des grosses sources de revenus pour le pays népalais.
Et syncope. François-Guy Thivierge, alpiniste et guide de montagne. On a le portrait, M. Guy Thivierge. C'était très clair. Vous l'avez réussi. Je suis honoré de vous avoir parlé parce que malgré tout, ça reste un très grand exploit. Bravo, à la prochaine.
Merci, à la prochaine.
Merci à vous, les auditeurs. Alors, on a monté notre petit Everest aujourd'hui, n'est-ce pas? Et là, Paul s'en vient. On recommence demain, c'est ça, c'est le fun.